partage Catherine Parizeau.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vivons dans une société en mal de repères, dans des domaines aussi divers que la santé, les croyances religieuses, également aussi la formation professionnelle. Or, ces domaines deviennent la cible privilégiée de groupes et mouvances qui trouvent là des occasions inespérées et multiples d'exercer leur emprise sur nos concitoyens. Alors, comment nous protéger efficacement et surtout comment détecter les tentatives d'emprise et surtout comment aider leurs victimes? Et c'est pour aborder ce sujet complexe que je reçois avec vraiment beaucoup de plaisir Daniel Cisco, président de la DFI Île-de-France.
Bonjour.
Ainsi que deux témoins privilégiés que nous appellerons Caroline. Bonjour.
Bonjour.
Et Georges.
Bonjour.
Alors, Daniel Cisco, ADFI, Île-de-France. ADFI, pouvez-vous nous expliquer cet acronyme?
Oui, bien sûr. Alors, ADFI, Association de défense des familles et de l'individu, jusque-là, c'est banal, victime des sectes. Et là, ça situe bien le problème. En fait, l'association a été créée il y a une quarantaine d'années, on va fêter les 40 ans l'année prochaine, pour soutenir, accompagner les victimes ou les familles de victimes de dérives sectaires, et pour aussi faire de la prévention, et nous faisons d'ailleurs beaucoup de prévention dans le milieu de l'éducation nationale. Nous avons un agrément éducation nationale, bien sûr, et nous sommes reconnus d'utilité publique.
Oui, ce qui est un gage de sérieux, surtout que ça fait presque 20 ans que vous êtes reconnu d'utilité publique. Donc
tout
vous avez
fait
une solide expérience et vous êtes en contact permanent finalement avec les ministères et autres institutions.
Oui, avec un certain nombre d'institutions, dont
voilà,
par exemple dans le domaine des sectes, la Miviludes, qui est quand même une institution transversale qui regroupe un certain nombre de fonctionnaires. Mais nous sommes
alors
aussi
la Miviludes, donc je déplie aussi l'acronyme, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,
qui est directement rattaché au Premier ministre. Et puis nous sommes surtout aussi, en tant qu'acteurs de terrain, un réseau d'ADFI voilà, sur le territoire national, regroupé dans une union qui s'appelle UNADFI, UNADFI, Union Nationale des ADFI, et qui effectivement permet de fournir un certain nombre d'informations. On a accès à un fonds documentaire si on va sur son site, etc.
Oui, alors donc justement il y a un site et avec une foule de renseignements, on y reviendra peut-être après, mais tout de suite il est utile de préciser que par exemple si vous appelez vous habitez Chambéry ou Montpellier, vous allez sur le site de l'UNADFI, vous avez un problème, vous pouvez tout de suite trouver des coordonnées d'associations locales.
Voilà,
donc il n'y a pas que l'Île-de-France, bien sûr.
Bien sûr que non. Et même dans l'Île-de-France, il y a plusieurs points d'implantation, de toute façon.
Ah oui, plusieurs points, donc.
Oui, nous avons Versailles et nous avons une ADFI sur Créteil. Mais ceci étant, on travaille en toute transparence, donc il n'y a aucun problème.
Et là, tous ces renseignements-là, vous les trouvez, bien sûr, sur le site, hein, adfi.org.
Voilà, une ADFI.org.
Oui. Et donc, quelles sont les cibles privilégiées, finalement, de ces groupes sectaires? Enfin, ou peut-être avant de parler des cibles, quels sont ces groupes et mouvances? Est-ce qu'on peut les appeler des sectes?
Alors, on peut utiliser le mot secte, parce que il a un gros avantage, ce mot secte, c'est que quand on le prononce, tout le monde croit savoir de quoi il s'agit. Il a un inconvénient majeur, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous met derrière ce mot secte une signification bien particulière, et on est ici quatre autour de la table, on trouverait quatre interprétations différentes du mot secte. Donc nous, on préfère, comme l'ont fait d'ailleurs nos parlementaires quand ils se sont penchés sur le sujet, on préfère éliminer le mot secte qui ne sert qu'à entretenir une polémique stérile, et tout de suite parler des risques que ces mouvements, que ces mouvances font courir aux gens qu'elles captent. Et ça, c'est plutôt des critères de dangerosité sur lesquels on se focalise, notamment quand on intervient dans les lycées, parce que ces critères de dangerosité sont une espèce de grille d'analyse qu'on peut donner aux jeunes pour qu'ils essayent de détecter, puisque c'était quand même ça que vous avez annoncé en début, pour qu'ils essayent de détecter la présence d'un mouvement déviant ou pas.
Et surtout les jeunes étant des cibles particulièrement vulnérables à l'époque où leur personnalité est en pleine construction et où ils ont peut-être encore moins de repères que pas mal d'adultes finalement.
Voilà, et il est important qu'ils puissent se faire des repères rationnels, raisonnables, avec effectivement une certaine sécurité dans le dialogue. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est même jamais le cas lorsqu'on est face à ces mouvements dérivants, parce que de toute façon, quelle que soit la question que vous posez, ils ont la réponse.
Oui. Alors que c'est tellement rassurant quand on est angoissé.
Et voilà. Et voilà. Donc, quand vous posiez la question, quel est le profil des gens qui se font capter, ben, je dirais qu'il n'y a pas de profil spécifique. Mmh. C'est vous, c'est moi. Oui. Même nous, qui travaillons sur ces sujets au quotidien, nous posons des questions parce que on peut tous avoir un moment où, non pas où on a une faiblesse, j'aime pas ce mot faiblesse, mais tous avoir un moment où on peut s'interroger sur quelque chose. De deux choses l'une, on croise quelqu'un qui a une éthique, et j'insiste beaucoup sur ce mot-là. On croise quelqu'un qui a une éthique, tout va bien, on va discuter sainement avec lui, on va échanger, tout va bien se passer. On croise quelqu'un qui est dans un de ces mouvements dérivants, on est fichu, on a mis le doigt dans l'engrenage.
Oui, d'autant si on se trouve dans une période de sa vie où on a subi un accident, un deuil ou quelque chose.
Voilà,
quoi.
Voilà, c'est ça.
Donc, en fait, personne, comme vous le disiez très justement, ne peut se considérer comme à l'abri de ce genre d'accident.
Personne. Et en plus, l'influence des sectes se fait aujourd'hui très insidieuse. Avant, on avait identifié en tant que secte un certain nombre de grands groupes.
Oui, c'est
donc,
vrai.
On connaît les noms. Enfin, je n'en citerai pas.
Non, mais
parce
vous
que
les trouverez d'ailleurs sur le site de la Miviludes, d'ailleurs.
Voilà. Et on les trouve aussi dans tous les journaux.
Absolument.
Ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est insidieux aujourd'hui, c'est qu'on a parfois des personnes qui, en fait, essayent de capter, alors avec des motifs dont le premier est forcément l'argent.
Oui.
Dont le deuxième est souvent le pouvoir qu'on prend sur une personne, donc un côté pervers, et dont le troisième, encore plus pervers, est sans doute le sexe, qui intervient aussi beaucoup. Mais donc, on a des personnes qui interviennent sur, 10, 15 captifs, on va dire.
Oui.
J'aime bien le mot captif. Et puis, si on les fait venir pour discuter avec eux et soi-disant résoudre leurs problèmes une fois par semaine et que, de façon occulte, on perçoit 100 € en liquide, bah, quand on en a une quinzaine, on peut très bien vivre.
Ça va vite, hein,
surtout sans déclarer d'impôts, quoi.
Ben oui, ça va vite.
Donc voilà, et si vous voulez, c'est cette tendance, cette nouvelle configuration des mouvements sectaires qui pose problème parce qu'on a beaucoup de mal à les identifier.
Oui, en parce fait, qu'on les retrouve, par exemple, dans la formation des infirmières, par exemple.
Hélas, dans la formation générale.
Et la formation générale, mais là, j'ai lu, justement, dans les sites dont nous avons parlé tout à l'heure, des comptes rendus absolument invraisemblables.
Oui, tout à fait, parce que tous les milieux de santé sont quand même des milieux où on peut faire miroiter à des gens qui ont un problème de santé une solution miracle. Enfin, je mets miracle entre guillemets, hein, mais une solution qui va leur permettre de, ben, par exemple, de ne plus suivre leur traitement contre le cancer.
Oui, on imagine.
De les abandonner.
D'une chimio, quelle horreur.
Oui, mais voilà, on leur fait croire que tout va bien se passer. Mmh. Et on a vu des situations catastrophiques se créer.
Et de fait, il y a aussi chez les jeunes aussi les arts martiaux.
Alors on peut trouver effectivement sous couvert d'arts martiaux, mais de pseudo arts martiaux, parce que les bons profs d'arts martiaux, il n'y a pas de souci.
Voilà.
C'est comme toujours, les gens qui ont une éthique. Le yoga aussi est une façon de capter, mais heureusement, il y a un très fort pourcentage de gens qui font du yoga et qui sont bien encadrés. Donc ça pose pas de problème. Mais dès qu'on tombe sur quelqu'un qui est pervers, effectivement, il n'y a plus de limite. Et on a des cas sur Paris de pseudo-profs d'arts martiaux qui embarquent une quinzaine, une vingtaine d'adeptes, entre guillemets, parce qu'il faut se méfier du mot adepte, et qui leur font faire n'importe quoi. En fait, je serais assez tenté de dire, mais je suis pas le seul, hein, je cite là un sociologue qui a écrit un livre sur la question, il s'appelle Gérald Bronner, hein, pour être clair, il compare souvent l'entrée dans un milieu extrême, et une secte est un milieu extrême parmi d'autres, comme un escalier. Et l'escalier, ben, c'est un escalier dont la première marche est toute petite, et les marches vont s'accroître. C'est-à-dire que la première marche est tout à fait rationnelle. Vous ne pouvez qu'accepter le discours qu'on vous tient. Franchement, il n'y a aucun sujet de rejet. Et puis, petit à petit, on va introduire une partie de la doctrine de la secte, et vous allez arriver en haut de l'escalier à avoir du 100% dogmatique, être dans un environnement qui est complètement détaché du quotidien de vous et d'autres personnes. Et finalement, vous allez avoir construit une situation que j'appellerais abracadabrante, pour pas donner de jugement de valeur, une situation hors norme, mais vous l'avez construite rationnellement. Donc vous n'avez aucune chance d'avoir l'idée de reculer, puisque ce serait nier votre capacité à penser rationnellement. Et là, vous êtes complètement enfermé.
Alors là, je crois que la meilleure illustration, c'est le témoignage que Caroline a eu vraiment la gentillesse et le courage, je dois dire, ça, bravo, de venir exposer à l'antenne d'une expérience, donc en tant que, non pas en tant que victime d'une mouvance, mais par contre en tant qu'entourage d'un groupe sectaire. Et alors on va dire, il était une fois en Australie, Caroline.
Il était une fois en Australie, ma sœur avec son mari et leurs deux enfants très jeunes, de 3 et 6 ans, qui étaient complètement paumés, qui manquaient d'aspiration, qui cherchaient un sens à leur vie, qui n'avaient pas du tout de pratique religieuse d'ailleurs, qui sont allés à une fête d'un groupe religieux basé et créé aux États-Unis à l'origine dans les années 60, qui leur a distribué un prospectus décrivant une vie communautaire idyllique et authentique comme pratique de la Bible, en fait, l'ancienne et la nouvelle.
Et voilà la première marche de l'escalier, proposition honnête en apparence.
Voilà, viens voir le groupe, viens voir la communauté, on partage tout, nous on est authentique, on fait comme dit la Bible, on ne dévoie pas les messages, donc la deuxième étape ça a été le déménagement de la famille dans cette
alors, comment est-ce qu'ils ont quand même réussi à persuader cette famille, parce qu'il y avait donc un père, une mère et un premier enfant, si mes
souvenirs,
deux enfants jeunes. Comment est-ce qu'ils ont réussi à les persuader de déménager? Parce que quand même, c'est...
Alors au début, ça a juste été passé 2-3 jours.
Alors voilà,
ils prenaient les repas ensemble, ils chantaient, ils dansaient, ils se levaient aux heures normales. C'était un peu comme 2-3 jours de club de vacances de luxe dans la nature, dans le bush australien.
Oui, c'est très sympa ça.
Très séducteur. Après, ils ont pu rester une ou deux semaines.
Oui.
La troisième étape, ça a été commencer à participer aux tâches ménagères du groupe et de participer aux enseignements qui avaient lieu matin, midi et soir sur l'interprétation de la Bible qu'a ce groupe.
Qui une ressemble d'ailleurs très personnelle.
Oui, qui ressemble d'ailleurs à ce qui est décrit dans le film Witness, qui est un film des années 80, qui décrit une secte américaine avec Harrison Ford.
Oui.
Donc une vie communautaire
donc
de partage et de bonne humeur.
Grand film Witness, W-I-T-N-E-2-S, de Peter Weir, W-E-I-R, qui d'ailleurs est de façon intéressante un réalisateur australien. Oui, donc on continue.
Donc l'étape d'après, ça a été, puisque ça se passe bien, puisque vous voulez apprendre pour être de bonnes personnes, en fait, vous pouvez rester et vous aurez un travail ici. Tout est pris en charge, vous ne touchez pas l'argent, tout est partagé, il n'y a pas à chercher du travail ailleurs. Voilà, vous restez ici. Les enfants, pas besoin d'aller à l'école. Il y a l'école intégrée dans la communauté qui a une cinquantaine de personnes. Et donc, après quelques jours, ils ont été baptisés. C'est après que ça a commencé à se gâter, puisque dans une étape ultérieure, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'école, en fait, que c'était juste occuper les enfants à les faire travailler.
Oui.
Ils ont commencé à se lever à 5 heures du matin,
jeûner. Et alors, pour en revenir aux enfants, ce qui est intéressant aussi à ce stade, c'est qu'ils n'avaient pas accès à Internet, pas accès à la presse, pas accès à la radio,
musique,
pas accès aux
musique
au manuel.
Livres interdits, autre que ceux fabriqués par la secte, complètement enfermés dans ce camp d'internement coupé du monde à 50 km de Sydney, sans aucun contact puisqu'il n'y avait pas de voisins, pas de contact non plus technologique avec le monde extérieur puisque la seule musique autorisée c'était celle de la secte, pas de télé, pas de film, et au bout de quelques mois les contacts avec la famille ont été coupés.
Voilà, alors ça c'est encore une étape où on va isoler la victime ou les victimes
physiquement et mentalement
de leur milieu
normal.
Et surtout affectivement.
Ce qui les affaiblit.
Oui. Et donc là, ça a fini, ça a commencé à se gâter aussi au niveau du quotidien, la privation de sommeil, ce qui est aussi une manière de d'affaiblir les gens et d'altérer leur capacité de jugement.
Faible repas, oui. Avec un jour de jeûne par semaine, y compris pour les enfants de 3 ans. Donc, rythme de vie complètement encadré par des leaders, des gourous, en fait, qui toutes les 5 minutes vous disent ce qu'il faut faire. Donc, perte de capacité nerveuse à avoir de l'autonomie et même perte d'initiative, puisqu'il n'y a pas de sortie du camp permise. Donc, en fait, à force d'être enfermé, vous êtes manipulable, y compris dans les actes les plus intimes de votre existence, puisqu'il régente la vie de couple, il sépare les couples, les gourous, oui. Quand ils veulent, il sépare les enfants des parents.
Et puis, en plus, ils ont une manière aussi de concevoir l'éducation des enfants de façon très particulière. Là, vous avez des choses
alors,
à nous dire.
Ce groupe applique la Bible de manière aveugle, intégriste et sans discernement, c'est-à-dire qu'ils frappent les enfants, les maltraitances qu'on subit mes neveux sont abominables. Des coups de fouet en public, les fesses à l'air avec des tiges de bambou, enfin des sortes de fouets, des verges. Une torture psychologique par la séparation des parents et donc les problèmes affectifs. Un manque d'acquisition d'autonomie puisqu'il n'y a pas d'école, c'est-à-dire les pseudo-cours, en fait, c'est très très basique, c'est juste pour apprendre à lire et à écrire, mais il n'y a pas un développement de l'esprit critique, il n'y a pas un développement des connaissances, il n'y a pas un développement de l'amour à l'autre, autre que celui qui est dans la même communauté. Lorsque mon neveu, qui est celui des enfants de ma sœur qui a le plus souffert, a été sorti de cette pseudo-formation, il a été mis dans différents travaux, sans déclaration évidemment, avec des marteaux-piqueurs, en boulangerie, à dormir 5 heures par nuit pour fabriquer le pain. Il était fouetté là avec du métal. En fait, il dormait par terre pour le punir parce qu'il ne se levait pas assez tôt pour faire le pain. C'était des vraies tortures physiques.
Là, on ne commentera même pas, là, sauf si Daniel Sisko a quelque chose à dire.
Mais là, c'est représentatif de deux autres critères de dangerosité. Le plus anodin, c'est la rupture avec l'environnement, hein, que vous avez évoqué au tout début. Et puis, surtout, l'atteinte à l'intégrité physique et psychologique. On essaye de casser la personnalité pour pouvoir la remodeler dans le moule de la secte, entre guillemets, enfin du mouvement accueillant.
Et la manipulation concerne aussi les adultes pour leur corps, pour leur intimité. Ma sœur est tombée enceinte d'un enfant dans la secte. Elle n'a eu aucun suivi médical, à tel point qu'elle a perdu son enfant, donc à 9 mois, alors que dans un pays... Enfin, même en Australie, quand il y a un suivi médical, une échographie aurait permis d'anticiper l'accouchement. Elle a eu un enfant mort qui a été enterré dans une colline de la secte où il y avait plein d'enfants morts, faute de suivi médical, qui s'appelait la colline des morts-nés, en fait.
Oui. Et vous, alors, l'entourage, comment vous êtes-vous aperçu que vous aviez perdu le contact que votre famille était en danger, que votre sœur, son mari et ses enfants étaient en danger.
Les 3 premières années, le danger paraissait sous contrôle parce que on était autorisé à l'appeler et à lui écrire.
Ah oui.
Les 3 premières années. Après, ma sœur, qui était très attachée à sa famille, a voulu venir voir sa mère et ses frères et sœurs, en fait, en Europe. Elle a été autorisée à venir, mais en fait, le voyage a été annulé. En théorie, elle était autorisée. En fait, le voyage a été annulé parce que la secte a eu peur qu'elle reste chez sa famille.
Et, oui.
Et depuis, donc, 3 années après... elle n'a plus le droit ni de prendre le téléphone ni d'écrire et les lettres étaient renvoyées par la poste quand on lui écrivait.
Et encore une marche de plus. Simplement, oui. Là, vous aviez pris la décision peut-être à ce moment-là Ça a dû vous alerter quand même.
Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément cherché un avocat, on a été voir la police, etc. Et en fait, la secte est très douée pour manipuler l'entourage institutionnel de la communauté près de Sydney, c'est-à-dire qu'elle a la police dans la poche, les services du ministère de la Santé dans la poche, le ministère de l'Éducation dans la poche. C'est-à-dire que les contrôles qui arrivaient de temps en temps étaient complètement manipulés, complètement falsifiés. Il n'y avait ni suivi médical, ni suivi scolaire dans la secte. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai cherché le spécialiste, donc l'équivalent de Monsieur Cisco, en Australie, qui nous a dit que en acquérant des connaissances sur la secte et en envoyant des espions pour savoir s'ils étaient encore vivants, comment ils vivaient, etc., on pouvait envisager d'établir un contact par une personne interposée, et ça a pris donc 10 ans.
Voilà. Et vous avez, en gros, on va dire en gros, réussi.
On a réussi à coup de milliers d'euros, hein, puisque le total a dû nous coûter, a dû me coûter, en fait, je devrais dire, 40 à 50 000 euros.
Oui.
C'est-à-dire payer les voyages, payer des intermédiaires qui allaient voir s'ils étaient toujours vivants. Il y a un troisième enfant qui est né dans la secte, donc avoir connaissance de ça. Avoir des personnes qui parlaient aux différents membres de ma famille pour savoir où ils en étaient physiquement. Essayer d'aller, nous, on a fait 5 voyages, mon frère et moi, pour essayer de pénétrer dans la communauté soi-disant de partage et de religion vécue de manière généreuse. En fait, on était interdits de séjour et ils avaient développé une telle paranoïa que même ma sœur ne voulait plus nous voir.
Ce qui reflète bien l'idée que pour aider quelqu'un ou une famille à se sortir d'un engrenage aussi infernal, il n'y a que la ténacité et l'amour de l'entourage qui
ça
qui
ne suffit
peut,
pas. On
n'a
pas réussi à les sortir.
Oui.
Donc on a échoué. Là où on a réussi, c'est que comme mon neveu a été évincé physiquement de la secte avec son père pour désobéissance à l'âge de 16 ans, grâce à tout ce système de renseignement de type espionnage que j'avais mis en place, et grâce à ces associations locales, j'ai su qu'il était parti chez sa grand-mère en Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai pu appeler. Et là, j'ai pu le sauver et le faire venir
voilà.
En Europe.
Voilà.
C'est effectivement très difficile de sortir quelqu'un d'un mouvement de ce type. Et ça, le conseil qu'on donne systématiquement, c'est rester en contact, tenter de maintenir le contact. Et c'est ce qui s'est passé. Non seulement vous avez tenté de maintenir le contact, mais vous êtes allé sur place, etc. Donc, il y avait un recours possible et ils avaient, si je puis dire, une branche à laquelle s'accrocher au moment où ils se trouvaient tout seuls, isolés et sans référence par rapport à ce qu'ils avaient connu jusqu'à présent.
Oui, alors là, nous sommes donc en compagnie de Daniel Cisco, président de l'ADFI Île-de-France, de Caroline et de Georges, qui sont en train de témoigner sur leur expérience avec les groupes émouvances sectaires. Et là, j'aimerais donner la parole à Georges, justement, et lui demander si son parcours, le parcours de Caroline, alors en tant qu'entourage, entre en résonance avec votre propre parcours, Georges, en tant que victime, là, pour le coup.
En écoutant Caroline, elle parlait d'obéissance, obéissance inconditionnelle, en fait. Et c'est une caractéristique des mouvements sectaires.
Oui.
Je peux faire une parenthèse, là, sur le mot secte.
Oui, allez-y.
Je vais reprendre la définition d'un philosophe du XVIIIe, Voltaire. Il dit « Tout ce qui n'est pas vérité est secte ».
Oui.
D'abord, ce n'est pas péjoratif. Toutes les églises sont des sectes et ce devient des convictions. Donc, obligatoirement, tous ceux qui viennent avec le mot « vérité »,
oui,
c'est déjà une suspicion.
Bien sûr, oui.
Et il y a très peu de vérité sur Terre. L'homme naît avec 2 yeux... une bouche, ça c'est vrai, universellement c'est vrai. Tout le reste ce sont des convictions, donc il faut déjà bannir tous ces mots. Et au niveau de l'obéissance, si je continue au niveau de ce philosophe-là, il disait, c'est quand même curieux, que Dieu nous ait créé un cerveau avec la faculté de penser, de raisonner, de réfléchir, d'échanger, et qui me demande d'obéir. Ça, c'est pas considérable.
C'est paradoxal.
C'est comme s'il m'avait créé, poursuit-il, avec un estomac et qu'il m'interdise de manger.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, Georges, une ancienne victime, vous soyez amené à dire ça. Et j'imagine que vous dites ça au terme d'un parcours personnel qui a dû être...
Les parcours de chacun sont un peu différents.
Bien
en fait,
sûr.
Vous savez, on est d'abord victime de ses besoins.
Oui, c'est-à-dire ?
Moi, j'avais besoin d'un père.
Oui.
Et quand je l'ai retrouvé, il faisait partie d'un mouvement religieux. Donc, dès que je suis rentré dans ce mouvement religieux, ben, j'ai eu des contacts merveilleux.
Ouais, et oui. Et puis là.
Mais ouais. Les besoins peuvent être différents. Si vous êtes seul, vous trouvez un groupe qui fait preuve d'amour.
Oui.
Je rajoute un mot, c'est de l'amour conditionnel. Tandis que normalement, un père, donc si on admet que Dieu existe et qu'il est le père de l'humanité, il devrait avoir un amour inconditionnel pour les gens.
Oui.
Comme vous pouvez avoir un amour inconditionnel pour vos enfants si vous en avez. Peu importe s'ils sont, entre guillemets, bien ou mal.
Absolument.
Ils auront de toute façon la rétribution de leur, de leur action. Eh bien, il n'en est rien pour tous ces mouvements. Alors, c'est pour ça que je parle de secte sans aucun complexe.
Oui.
C'est tout ce qui n'est pas vérité.
Et donc, vous en êtes... oui, Daniel Cisco, vous aviez
envie de dire
quelque chose. Donc, vous vous en êtes sorti.
Oui, mais je me demande si j'y suis rentré, en fait.
Ah, tiens.
Parce que les motivations étaient... Je viens de vous les exprimer.
Oui.
Donc, est-ce que ce sont des motivations religieuses ou familiales? Bon, mais vous faites cette analyse-là 40 ans après.
Ben oui, bien sûr, bien sûr.
En fait, là, tu viens d'évoquer, effectivement, une des difficultés majeures de la sortie d'une secte, c'est comment trouver des repères, comment revenir dans une existence standard, pour pas dire normale ou pas normale, c'est pas la question, mais se réintégrer dans la société, et c'est effectivement très difficile.
Oui, comment redevenir libre, surtout, parce que ce qu'on aliène dans une secte, et c'est ça la différence avec les autres types de convictions, ce qu'on aliène, c'est sa liberté de conscience, sa liberté de mouvement, sa liberté de penser, sa liberté d'aimer.
Oui, et alors à ce moment-là, je vais demander à Daniel Cisco ce que l'ADFI Île-de-France propose concrètement pour des gens qui seraient tentés de composer le numéro de l'association 01 44 92 30 14, ce qui serait donc...
Ce que nous proposons, c'est d'abord une écoute, parce qu'il faut déjà comprendre ce que la personne cherche, et puis c'est un soutien... On peut se rencontrer, parce que le téléphone n'est pas toujours suffisant. Il l'est parfois, mais on se rencontre, on reçoit les gens. Ça leur permet déjà d'avoir un contact qui les comprend, parce que ça n'est pas la première fois qu'on voit des cas comme le leur. Alors que eux se sentent tout à fait isolés. Ils se disent, mais ils culpabilisent souvent, d'ailleurs, sur cette notion-là.
Et donc là, je vais rappeler les coordonnées de l'UNADFI.
L'UNADFI Paris-Île-de-France.
Excusez-moi. Pour les renseignements, la documentation, c'est www.unadfi.org pour avoir aussi plein de renseignements sur tous les groupes possibles et imaginables, un certain nombre que vous pouvez trouver en France, malheureusement. Mais surtout, concrètement, si vous avez besoin d'aide, vous avez le site unadfi.org. Vous avez un téléphone 01 44 92 30 14, une adresse mail adfi.parisidf tout attaché @gmail.com. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu nous expliquer justement comment sortir de ces difficultés-là. Et en particulier, je remercie chaleureusement les deux témoins qui ont eu le courage de venir raconter leurs expériences et commentaires.
Merci à vous.
Merci.